Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 25 novembre 2021 et oui, c'est Thanksgiving. Alors peut-être que je ne voulais pas assez répéter depuis le début de la semaine. Les marchés américains sont fermés, ils sont tous partis en famille à la maison pour aller manger la dinde. Et donc du coup, aujourd'hui, ça va être très très calme. C'est aussi la journée pour vous dire merci, visiblement, puisque c'est la saison. Donc merci d'être là tous les matins, merci d'être toujours plus nombreux chaque jour, puisqu'on frise les 11 600 membres sur la chaîne Suisse Côte Suisse. Franchement, vous m'auriez dit ça il y a une année que je serais considéré comme un YouTuber, je mets encore des gros guillemets de chaque côté, eh bien, j'aurais pas forcément cru, mais en tout cas, merci à vous tous et rassurez-vous, on va continuer encore longtemps comme ça. Au niveau des marchés boursiers, ben hier, la journée était relativement calme en Europe, négative, plus ou moins, mais calme, légèrement plus faible sur la Suisse, assez faible sur le DAX. La principale préoccupation du moment, eh bien évidemment, c'est le Covid. Et les restrictions qu'on va se prendre en pleine figure dans les jours qui viennent. La France doit communiquer aujourd'hui. L'Allemagne, ils sont en train de serrer les boulons de plus en plus. L'Autriche, on sait déjà. Pour ce qui est de la Suisse, eh bien, on va avoir la réponse probablement après les votations de jeudi, de ce week-end. Le Conseil fédéral ne prendra aucune mesure et n'aura pas le courage de faire quoi que ce soit avant, de toute manière. Et puis, de toute façon, après, si ça se trouve, on n'aura plus rien à dire. Donc les marchés n'ont pas fait grand-chose et on s'est contenté d'observer ce qui s'est passé, ce qui allait se passer aux États-Unis dans l'après-midi. Un marché américain qui est ouvert relativement plus faible. Donc voilà, petite journée en Europe. C'est clair qu'on s'attend pas non plus à des grandes manœuvres, mais aux États-Unis, on a remis par contre au goût du jour le concept du buy the dip. Alors le buy the dip, c'est quoi? Eh bien, c'est simplement quand les marchés baissent. On a vu ces derniers temps, depuis l'arrivée du Covid, que dès que on a une faiblesse sur les marchés financiers, eh bien, les investisseurs ont tendance à chercher les niveaux suffisamment intéressants pour racheter ce qu'on appelle le trou en français, le dip en anglais. Et donc, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement en finance. Quand on a plusieurs séances de baisse, on se dit, ouais, à quel moment il faut commencer à racheter. Alors, il fut un temps, on rachetait avec moins 5%, moins 10%, moins 10%, c'est le super bon moment pour faire du buy the dip. Mais aujourd'hui, depuis l'arrivée de la pandémie, ça a pas mal changé de paramètres. On a vu que tout d'un coup, à moins 2, moins 3%, c'est déjà l'heure d'aller racheter quelque chose parce que ce serait dommage de rater le prochain move au plus haut de tous les temps. Eh bien, c'était hier, visiblement, le Nasdaq à moins 3% depuis les tops de la semaine dernière. Eh bien, les gens sont revenus dedans et on a racheté le Nasdaq massivement. On n'est pas encore au plus haut de tous les temps, mais ça ne saurait tarder à ce rythme-là. Et puis, le S&P 500 a clôturé la veille de Thanksgiving, lui, au plus haut de tous les temps. Ça veut dire de combien il était en baisse depuis quelques jours. Donc, ça reste vraiment des corrections pour l'instant qui sont homéopathiques et on voit que le marché à la première occasion, eh bien, ils sautent dedans pour racheter. Et là, vraiment, personne n'avait envie de rester short au travers de Thanksgiving. Pourtant, il y avait une montagne de chiffres économiques qui nous faisait poser beaucoup de questions. Au milieu de ces chiffres économiques, eh bien, il y avait déjà les jobless claims. Alors, les jobless claims sont sortis à 199 000 les nouvelles demandes d'indemnité chômage pour la semaine. C'est le niveau le plus bas depuis 50 ans. Donc on peut interpréter la chose en disant mais l'économie n'a jamais été autant en forme, l'emploi n'a jamais été aussi bien que depuis 50 ans. 50 ans, ça veut plus rien dire, personne se souvient comment c'était il y a 50 ans au niveau des jobless claims. C'était un autre marché, une autre économie, un autre monde, et la plupart des leaders aujourd'hui des marchés financiers, des bourses mondiales n'étaient même pas là, n'existaient même pas. Néanmoins, on s'est trouvé comme une bonne surprise, et c'est ce qui a un petit peu déclenché ce côté et cette envie de venir racheter les marchés au fond du trou hier. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est des gens qui ne demandent plus l'indemnité chômage. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont retrouvé un travail, ça veut juste dire qu'ils vont plus prendre la peine d'aller au chômage pour demander une indemnité de chômage. La question, c'est qu'est-ce qu'ils font? Alors apparemment, il doit sûrement y avoir des gens qui sont devenus crypto-traders professionnels, des gens qui sont tout simplement crypto-traders sur Reddit, des gens qui se sont lancés dans la création de contenu en freelance sur Internet, des gens qui se sont lancés dans la création de contenu en freelance sur Internet, mais en plus en traversant le pays en camping-car. Après, il y a ceux qui se sont barrés des listes du gouvernement, qui ont quitté les villes, qui s'installent à la campagne et qui décident de changer de vie et de vivre différemment, qui créent leurs propres entreprises, qui tentent de démarrer autre chose avec une mentalité un peu différente de l'hyper-activité et de l'hyper-société qu'on a aujourd'hui. Il y en a qui sont peut-être devenus influenceurs ou qui essayent de devenir influenceurs sur Instagram. On voit que ça cartonne à Dubaï. On voit toutes ces nanas régulièrement à la télé qui ont l'air vraiment hyper intelligentes. Ça donne super envie de faire ça comme métier. Et puis après, il y a sûrement ceux qui demandaient des indemnités chômage et qui ont arrêté de croire qu'un jour ils trouveraient du boulot. Donc ils ont carrément arrêté de demander quoi que ce soit et sont en train de disparaître du système, puisqu'il est intéressant de voir qu'à la veille de Thanksgiving, on a quand même publié des chiffres aux États-Unis qui disent qu'à l'heure actuelle, il y a à peu près 20 millions d'Américains qui n'ont pas à manger suffisamment chaque jour. Donc c'est assez intéressant de voir que pendant qu'on est dans une espèce d'euphorie boursière et d'euphorie d'investissement un peu partout dans le monde, eh bien on a quand même 20 millions d'Américains qui ne mangent pas assez à la veille de parler de dinde et de repas de famille avec des victuailles partout, partout, partout sur la table. Autre données économiques que l'on a vues hier et qui font un tout petit peu peur, qui foutent carrément les jetons, j'ai envie de dire, c'est les minutes du FOMC meeting. Alors on sait que le FOMC meeting, lors du dernier meeting de la Fed, ils ont annoncé donc le tapering. On sait qu'ils sont en train de changer leur manière de gérer l'économie et de gérer l'inflation parce que ça devient un problème. Mais quand on lit les minutes, on voit vraiment qu'ils les ont comme ça. Hein. Ils ont vraiment les jetons par rapport à l'inflation et ils savent plus trop quoi faire. C'est vraiment... Enfin, j'exagère peut-être en disant plus trop quoi faire, mais c'est un petit peu... Ils sont juste au bord de dire « Là, ça va, mais si ça va un peu trop loin, nous, on est en panique. Hein. » Donc clairement, l'inflation n'est plus sous contrôle. Le terme transitoire, il est devenu plutôt aléatoire que transitoire. Et puis, bah, clairement, en voyant ça, le 10 ans, hop, il est monté encore une fois. Donc logiquement, ça aurait dû taper sur le Nasdaq. Mais comme on était en plein trip, buy the dip, veille de Thanksgiving, que les volumes étaient plus faibles, eh bien finalement, on est un petit peu parti dans tous les sens. Donc le 10 ans est remonté, le Nasdaq est remonté. Et puis finalement, la journée, on s'en sort pas trop mal. Mais on voit quand même que les chiffres économiques montrent très clairement, mais très très clairement, qu'il y a un énorme problème au niveau de l'inflation et qu'il faudra faire quand même super attention dans les semaines qui viennent, parce qu'on a vu aussi qu'au niveau des dépenses personnelles, ça continue à monter, donc les gens claquent du pognon, les prix montent, on a des problèmes au niveau des chaînes d'approvisionnement, on l'a encore vu il y a 24 heures, vous avez des boîtes comme Gap et comme Nordstrom qui ont annoncé des chiffres ces derniers jours, enfin il y a 48 heures, souvenez-vous, des chiffres qui étaient en dessous des attentes, mais ils ont mentionné surtout la problématique des chaînes d'approvisionnement qui indirectement mènent à l'inflation, et les deux titres se sont fait mais massacrer hier, moins 24% pour Gap, moins 29% pour Nordstrom, donc on voit quand même qu'on a un problème au niveau des chaînes d'approvisionnement, et ça va pas s'arrêter du jour au lendemain, et puis derrière, ça génère de l'inflation, et on voit quand même que la Fed, eh ben, ils ont un tout petit peu les pépettes, et puis ils savent plus trop quoi faire. Donc évidemment, on parle indirectement de augmentation du rythme du tapering, augmentation de la réduction des achats obligataires, donc, et puis surtout, bah, on va parler évidemment de monter les taux bien plus tôt que prévu, puisque je vous rappelle que selon les attentes des experts du marché et des futurs que l'on peut regarder aujourd'hui, eh bien ce sera en juin 2022. Mais je prends les paris qu'à ce rythme-là, on va rapidement en parler pour le début du printemps 2022 également. Autrement, je sais pas si je vous l'ai dit, mais aujourd'hui, les marchés sont fermés aux États-Unis, donc attendez-vous pas à une journée complètement délirante en Europe, ça va être très très calme. Et puis, on notera que le pétrole ne fait rien et qu'il se traîne toujours à 78$ et des poussières, malgré la libération des 50 millions de barils de la réserve stratégique. On notera aussi que l'or est en train de se traîner lamentablement, il est revenu en dessous de la résistance qu'il avait cassée dans la zone des 1820-1825. Aujourd'hui, il est en dessous des 1800 aujourd'hui. Il est en train de tester la moyenne mobile des 50 jours et de 200 jours qui, accessoirement, traite plus ou moins au même niveau. Franchement, ça fout un tout petit peu la trouille. J'ai l'impression que s'il rebondit pas là, je sais vraiment pas ce qui va arriver à ce machin, mais l'intérêt semble assez misérable. On avait une zone de cassure assez spectaculaire qui n'a absolument pas fonctionné. On voit que tout le monde s'en fout pour l'instant. Ce qui me fait inévitablement arriver aux crypto-monnaies. Aux crypto-monnaies, ben, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui sur les crypto-monnaies? C'est aussi relativement calme. Pour l'instant, le Bitcoin ne fait plus grand-chose, mais par contre, les experts disent quand même que dans la zone des 56 000, 57 000, c'est un niveau de rebond hyper important et qu'on pourrait, avoir bientôt quelque chose d'assez spectaculaire sur le Bitcoin. Il y a intérêt, puisque je rappelle quand même que dans 36 jours, on est censé être à 100 000 dollars sur le Bitcoin, ça fait 75% de hausse d'ici la fin de l'année. Alors si on est long Bitcoin en leverage maintenant, ça pourrait être un superbe cadeau de Noël dans les semaines qui viennent. En tout cas, pour l'instant, il va falloir commencer à démarrer à un moment ou un autre. Alors on sait que le Bitcoin peut monter à coup de 30% par jour, c'est pas un problème. Mais quand même, là, on commence à prendre un petit peu de retard. Ce matin, la crypto-monnaie est à 57 775, enfin aujourd'hui à 5h15 le matin. l'Ether, lui, est à 4317 pour l'instant. Affaire à suivre. En tout cas, ça a l'air de se réveiller un tout petit peu. Et c'est vrai que techniquement, la zone des 56 000, 57 000 semble faire effet de support sur le Bitcoin pour le moment. Et puis, la nouvelle du jour qui est super excitante, qui est super motivante, qui est fantastique, qui est géniale et qui est hyper frustrante parce qu'évidemment, on n'est pas dedans, eh bien, c'est Longeveron Technology. Alors, Longeveron, c'est une boîte biotech, une obscure boîte biotech qui fait dans des médicaments contre les maladies cardiaques pédiatriques extrêmement rares, donc les maladies orphelines liées au cœur pour les enfants. Donc, il n'y a pas beaucoup de patients, heureusement. Et les quelques patients qu'il y a, et bien évidemment, ces médicaments coûtent très très cher. Et donc récemment, Longeveron a obtenu un granting, une autorisation de la FDA de continuer à développer un de ces médicaments qui est en phase 2 seulement aujourd'hui. Donc il doit encore finir la phase 2, aller en phase 3 dans les mois qui suivent. Donc on n'en est pas encore là. La boîte valait 2,50 $ il y a quelques jours en arrière. En 5 jours, elle a fait 1000% de hausse. Et puis, rien qu'hier soir, 145% de hausse sur Longeveron. Alors, c'est assez symptomatique. Évidemment, c'est un titre YOLO avec toute l'équipe de Reddit derrière pour continuer. Mais au début de l'histoire, de nouveau, la boîte était shortée à 120%. Donc, vous avez une boîte qui vaut 2,50 $ qui était shortée à 120%. Alors moi, je suis pas un hedge fund, hein, mais je comprends pas comment on peut être débile à un point d'aller shorter une boîte qui vaut 2,50 $. Le potentiel de gain, il est quand même misérable. Le risque est super élevé et à 120%. Ça veut dire que vous avez vendu à découvert plus que le nombre d'actions en circulation. C'est complètement ridicule. Ça veut dire qu'il y a 20 millions d'actions qui se baladent. Les mecs, ils peuvent même pas livrer ce qu'ils sont en train de vendre à découvert. C'est une aberration totale qu'on puisse laisser faire des trucs pareils. Mais bon, bref, ils sont en train de payer la facture big time puisque le titre sur 5 jours, eh bien, il prend 1000%. Alors, ne courez pas après parce qu'évidemment, c'est encore du Reddit, du côté hyper spéculatif qu'on a pu voir ces derniers temps. Donc, méfiance de ce côté-là. Mais sachez que Longeveron est le titre à la mode du moment chez toute l'équipe de Reddit. Et de Wall Street Bet, bien sûr. La question du jour, c'est quelqu'un qui me demande ce que je pense du secteur aéronautique et en particulier d'EasyJet parce que le titre ne fait que baisser. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Où est-ce qu'on doit aller? Là, avec le retour du Covid, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Oui, évidemment qu'il faut s'inquiéter si les restrictions deviennent de plus en plus conséquentes à nouveau. On reparle de confinement, on reparle de restrictions monumentales pour les non-vaccinés, d'obligations vaccinales, enfin plein de choses qui nous arrivent dessus. Eh bien, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour le secteur aérien. Maintenant, il est clair et net que c'est un secteur qui se doit de développer. Combien de temps il va mettre pour récupérer finalement ces problèmes Covid ces prochaines années? On n'en sait rien. J'en sais foutrement rien personnellement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se poser des questions. Quand on voit le chart d'EasyJet, c'est pas terrible. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on revient sur un niveau de support. Et à mon avis, ça a double tranchant. Si ça tient pas ici, ça va beaucoup plus bas et je pense qu'il faut pas insister plus longtemps. Par contre, on peut rebondir. Il peut y avoir un petit rebond à partir de là parce qu'on arrive on a l'air d'arriver quand même sur une zone de support sur EasyJet. Quels seraient les catalystes? Franchement, difficile à dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, vu le redémarrage des chiffres Covid et vu la panique que les gouvernements européens nous présentent, ça va être compliqué d'y croire. C'est vrai, mais néanmoins, si on voit un tout petit peu plus loin, quand on écoute les discussions qui ont été faites récemment au salon de Dubaï au niveau des besoins aéronautiques dans les 10 prochaines années, ça va être monstrueux. Alors la problématique, c'est qu'entre les compagnies comme Airbus ou comme Boeing qui vont vendre les avions, c'est une chose, mais après, il y a les compagnies aériennes et le business de la compagnie aérienne est devenu très très compliqué, surtout en ce moment. Alors c'est vrai que spontanément, n'étant pas dans EasyJet ou n'étant pas dans d'autres compagnies aériennes, c'est pas le truc qui m'attire le plus au niveau investissement. Donc la seule chose que je peux dire aujourd'hui, c'est que EasyJet est sur un support. On peut tester le rebond, mais je suis pas sûr effectivement que si on se projette dans 3 ans comme aujourd'hui, c'est pas le secteur qui aura le mieux performé probablement. Quoique si tout d'un coup, on a une disparition totale de cette merde de Covid dans les mois qui viennent, on peut rêver, sait-on jamais. Eh bien, à ce moment-là, il y aura peut-être un effet de rattrapage assez monumental. Mais là, on fait vraiment du wishful thinking. On espère, on prie. Et pour l'instant, on n'en sait pas plus que ça. Donc, support, attention, si support casse les 500 cas sur EasyJet à la baisse, franchement, il faudra se méfier. Mais autrement, on peut... Allez, soyons fous. Espérer un rebond. Voilà, c'est tout pour ce jeudi de Thanksgiving. Moi, je vais aller mettre la dinde au four et l'arroser pendant les 8 prochaines heures. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée. Bien sûr, n'oubliez pas quand même de vous abonner à la chaîne Suisse Côte Suisse et puis de liker cette vidéo et de revenir demain parce que même s'il n'y aura pas grand-chose à dire par rapport aux marchés américains qui sont fermés, eh bien, je serai quand même là. Très bonne journée à tous. Bye bye.